nous avons des peuples qui se trouvent en Afrique, allons débuter cette fameuse traite négrière. Et c'est comme ça que ça a commencé.
Identitaise.
Identitaise.
Identitaise. Le podcast qui aborde
la complexité de l'identité antillaise.
Bienvenue sur Identitaise, épisode numéro 2. Je suis Adeline et je suis toujours accompagnée de mes deux acolytes préférés, Michel.
Allô tout le monde.
Et Jordi.
Allô, allô.
Alors, on espère que le premier épisode vous a plu et vous a donné un bel aperçu de l'aventure Identitaise, de ce que ça allait être. Aujourd'hui, nous entamons notre première partie, à savoir les causes. Et donc, dans cette partie, comme on l'a décrit dans notre publication sur les réseaux sociaux, nous allons en fait aborder l'histoire de nos territoires de façon chronologique depuis la période précoloniale, précolonisation, précolombienne, jusqu'à la départementalisation. Et donc aujourd'hui, l'épisode s'intitule « Il était une fois à la Caraïbe ». Donc on va parler finalement de l'ère précoloniale, mais qui est un peu floue parce que je ne sais pas pour vous, mais pour moi qui ai grandi et donc qui était à l'école en France hexagonale, j'ai pas eu vraiment d'informations, d'histoires sur la période d'avant la colonisation aux Antilles. C'est-à-dire que moi, dans les souvenirs que j'ai, bon, c'est sûr que le collège, ça remonte maintenant, mais de ce dont je me souviens, c'est comme si l'histoire des Antilles, finalement, commence à la colonisation lorsque les Européens débarquent, lorsque Christophe Colomb fait sa fameuse découverte des territoires, puisqu'il est en exploration. Mais finalement, c'est comme si il y avait rien qui s'était passé avant ça, et c'est vraiment récemment que j'ai entendu parler de peuples Arawak, Taïnos, mais c'est pas quelque chose que j'ai appris à l'école. Ce que j'ai réalisé, c'est que finalement, en Amérique du Nord, on parle des peuples qui existaient en fait avant la période coloniale, avant que les colons ne débarquent. Donc, je pense aux États-Unis ou au Canada avec l'histoire de Pocahontas, qui de toute façon a été illustrée par Disney, donc l'histoire de fameux John Smith qui tombe amoureux de la sauvage, comme on dit, Pocahontas. Et puis aussi en Amérique du Sud, on avait aussi l'image des Aztèques, des Mayas, des peuples en fait de l'ère précolombienne, puisque je pense notamment les mystérieuses, aux dessins animés, les mystérieuses cités d'or. Et donc en fait, tout ça pour dire que dans mon imaginaire, dans mon inconscient, il y avait cette image de en Amérique du Nord, il y avait ce qu'on a appelé par la suite les Amérindiens, les Indiens d'Amérique. En Amérique du Sud, donc, il y avait ces peuples, les Aztèques, les Mayas, etc. Mais c'est comme si dans la Caraïbe, il n'y avait personne. Et du coup, c'est comme si les colons ont amené la vie sur nos territoires. Donc, la question que j'ai pour vous deux, Michel et Jordi, vous qui avez grandi en Guadeloupe et en Martinique, qu'est-ce qu'on vous a appris sur l'histoire des territoires avant la colonisation ?
Alors, me concernant, dont je me rappelle, au primaire, on nous parlait un peu justement des Arawaks, vous savez, là, les dessins là, qu'on trouvait sur les pierres, etc., donc dans la zone de Basse-Terre et tout. Mais on nous a jamais appris, par exemple, comment et pourquoi le peuple Arawak a disparu quasiment de la Guadeloupe, avant justement, enfin, au moment où Monsieur Christophe Colomb est arrivé. J'ai trouvé ça toujours étrange parce que je me dis, ok, on me parle d'un peuple que je connais à peine et donc c'était les premiers habitants de la Guadeloupe. Pour ensuite faire un bond tout de suite vers Christophe Colomb, on nous présente ce monsieur comme étant limite un grand explorateur, un héros, je ne sais pas comment je peux le qualifier, qui a amené tellement de bonnes choses. Oui, c'est lui qui a découvert la Guadeloupe. Oui, c'est lui qui a donné le nom Guadeloupe, etc., etc. Et en fait, je grandissais en fait dans ce flou-là. Et c'est en faisant mes propres recherches un jour, je suis tombée sur un livre là que je me dis ça peut être intéressant, qui s'appelle 1493 de Charles Simon. Et au cours de ma lecture, je me rends compte à un moment donné que Christophe Colomb, qu'on m'a toujours présenté comme étant ce très grand explorateur, est à l'origine de la traite négrière. Ça me permet justement de, on va dire, un peu bifurquer sur une référence que j'aimerais partager avec vous. Je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion de lire La controverse de Valladolid. Ce livre est basé sur un échange entre Sepúlveda et Bartolomé de las Casas. Un qui va défendre les Indiens en disant que ce sont des êtres humains, ils ont une race, ils ont une âme, pardon, etc. Et l'autre qui défend le contraire, qui les considère comme des animaux, machin. Au final, on considère les Indiens comme étant des êtres ayant une âme, mais à la fin, étant donné qu'ils ont exploité les autochtones, notamment pour des besoins économiques, ils se sont demandé, mais qui va remplacer ces personnes? Et donc, c'est de là que l'idée de « Ah, nous avons des peuples qui se trouvent en Afrique, allons débuter cette fameuse traite négrière. » Et c'est comme ça que ça a commencé. Donc, le fait de non seulement lire 1493, lire La controverse de Valladolid, c'est là qu'en fait que j'ai eu une espèce de, j'ai le mot en anglais, c'était mind blown, genre c'était limite inconcevable pour moi que pendant toutes ces années, c'est comme si on m'avait menti en fait. On m'a fait comprendre que voilà, telle personne a fait telle chose. Donc c'est-à-dire que au cours de mon existence, je grandis avec cette idée que cette personne a fait du bien, alors qu'en fait c'est tout le contraire.
Mm-hmm. Pour moi, comment l'histoire m'a été racontée. Et j'aime beaucoup ce que tu dis à la fin, Michel, parce que justement, je suis tombé sur un livre récemment, genre c'était en 2020, en pleine pandémie, et ça s'appelait The Lies My Teacher Told Me de James Lowen. Et justement, c'est un peu comme tu dis que c'est comme si lui, il avait eu la révélation qu'au final, ben, on lui avait menti sur l'histoire qui était passée avant, parce qu'on lui a toujours vendu Christophe Colomb comme un grand homme qui a découvert les Amériques, la Caraïbe, et puis c'était des explorations, c'était que des choses très valorisantes qu'on lui avait attribuées. Et puis lui, en allant faire son doctorat d'histoire et puis en s'intéressant justement à cette période précolombienne, il s'est rendu compte que ses professeurs lui avaient menti pendant tout ce temps. Et puis, la même façon aussi qu'on parlait de la période précolombienne, mais la période de l'esclavage aussi, il y a tout un récit qui est fait d'une certaine façon à valoriser, on va dire, les Européens dans leur quête de découverte du monde et des cultures. Et au final, on s'est rendu compte que ça a servi qu'à faire de l'oppression, de l'esclavage et tout ce qu'on connaît maintenant. Mais mis à part ça, comment on m'a raconté l'histoire? Moi, je suis en train de réfléchir depuis que tu as posé la question, Adeline. Et franchement, je me dis que oui, on nous a parlé, quand on était plus jeune au primaire, on va dire, on nous parlait des Arawak, des Caraïbes, les peaux rouges, tout ça. Mais un peu comme dit Michel, on nous a jamais dit à quel moment ils étaient plus là. Et puis c'est vraiment par toi-même quand tu vas visiter des musées, quand tu essayes de t'intéresser un peu plus à l'histoire, c'est là que tu découvres qu'il y avait une société qui était là avant et qui était organisée, qui avait une façon de voir les choses, qui avait ses croyances, ses rituels. Mais on nous a juste fait croire que Christophe Colomb est arrivé. Moi, c'est ça le souvenir que j'ai. C'est Christophe Colomb a découvert la Martinique en 1400... 1452, pardon, si je ne me trompe pas, on verra pour la référence, mais c'est ça que j'ai en tête, je me souviens de ça, Christophe Colomb découvre la Martinique, et c'est comme si ben, ceux qui avaient, les personnes qui étaient là avant, c'était des sauvages, des personnes, c'est surtout, en plus c'est l'histoire aussi, désolé, ça vient en même temps que je suis en train de réfléchir comment on m'a raconté l'histoire sur les peuples qui étaient là avant nous, et puis il y avait cette idée de, ben, oui, c'était des sauvages en fait qui étaient là, et les Awawak ont éliminé les Caraïbes qui étaient là avant, donc et puis c'était des cannibales. Donc il y a à l'inverse de tout le discours valorisant qu'on donnait aux Européens, il y avait ce discours un peu de sauvage, cannibale qu'on attribuait aux Caraïbes. Et il y a que récemment, c'est vraiment récent, et on va dire 2 ans que ben, j'ai découvert que non, c'était pas des sauvages, c'était pas une découverte comme on dit. Et c'est drôle parce que j'avais entendu ça en écoutant un podcast sur, ça s'appelle Laissez-nous raconter. Et puis l'histoire crochue. Et c'est un podcast qui parle des peuples autochtones au Canada. Et justement, il y a un épisode qui s'appelle Découverte où ben, là, la parole est donnée aux personnes autochtones. Et puis ils disent, mais découvert quoi? Puisque nous, on était déjà là. Donc on ne peut pas découvrir quelque chose où il y avait déjà quelqu'un, il y avait déjà une civilisation. Oui, tu es arrivé là, mais tu n'as pas découvert. Tu l'as découvert peut-être pour les Européens qui ne connaissaient pas, mais il y avait déjà une civilisation qui était là. Donc, ça me fait penser à tout ça, ta question, Adeline, et aussi ben, au fait que ben, non, je n'ai pas vraiment eu une éducation de ben, il y avait quoi avant Christophe Colomb. Et puis, si j'en ai eu une, ben, c'était une qui était vraiment pas valorisante pour les peuples autochtones qui étaient là avant. Donc, dans tous les cas, ça devient difficile de s'identifier en plus à cette histoire-là, quand en plus il manque des morceaux, des choses comme ça. Donc, c'est une très bonne question que tu as soulevée.
Oui, et puis, moi, je sais aussi que, par exemple, l'île de la Réunion, c'était une île, pour le coup, qui n'était pas peuplée. Donc, c'est une île qui a vraiment été colonisée, mais sur laquelle, je pense, hein, si je ne me trompe pas, ou peut-être que je confonds avec la Nouvelle-Calédonie, mais je sais qu'il me semble que la Réunion a été utilisée au début pour envoyer les bagnards, etc. Et après, il y a eu, en fait, ce besoin de peupler l'île, pour évidemment utiliser les ressources, exploiter les ressources. Et puis, il y a eu après tout ce mélange-là, finalement, qui s'est fait entre des peuples venus, je pense, d'Afrique, mais aussi d'Asie. Il y a beaucoup de mixité Afrique-Asie sur l'île de la Réunion. Et du coup, en fait, moi, je pense que aussi, pendant longtemps, j'ai associé un peu cette image-là entre la Réunion et les Antilles, dans le sens où, oui, les histoires sont complètement différentes, et il me semble qu'à la Réunion, je suis pas sûre, pardonnez-moi si mes références ne sont pas bonnes, mais je pense pas qu'il y a eu une histoire, un passé esclavagiste aussi important qu'en Martinique et en Guadeloupe, à la Réunion. Et donc, je pense que sur le côté découverte, exploration, moi, j'associais ça un peu de la même façon que ça a été fait à La Réunion. Je pensais un peu aussi que c'était la même chose pour la Guadeloupe et la Martinique, sauf que derrière, il y a eu la traite négrière, ce qui n'a pas été le cas pour La Réunion. Mais pour moi, en fait, les départements d'outre-mer était vraiment une découverte. C'est pour moi, comme en fait, les termes qu'ils utilisaient dans les manuels d'histoire, c'est l'exploration, c'est la découverte. Donc pour moi, tout était découvert. C'est sûr qu'il y a les territoires comme la Nouvelle-Calédonie ou la Polynésie française, étant donné que les Polynésiens ou les Kanaks, ils sont toujours là. Donc tu as tu peux te raccrocher à cette histoire en te disant que oui, il y a eu réellement une colonisation, il y a eu réellement une invasion, mais les peuples sont toujours là en fait. Donc, il y a cette transmission finalement qui s'est faite, et les Polynésiens sont toujours là. Il y a cette dimension ancestrale et cette dimension vraiment de que le peuple primaire, entre guillemets, est toujours là, en fait. Donc, le peuple natif, le peuple originel est toujours là, que ce soit en Polynésie française ou en Nouvelle-Calédonie. Mais ce n'est pas du tout le cas pour nous, en fait, parce que finalement, comme je le disais au tout début, il y a un flou, il y a un total flou par rapport à l'ère précoloniale. Donc oui, tout à l'heure, on a dit comme ça des peuples, les Arawaks, les Taïnos, etc. Mais où sont ces gens-là aujourd'hui, en fait? Et tout à l'heure, on a aussi évoqué, Jordi, tu parlais d'un podcast qui traitait des autochtones, des peuples autochtones au Canada et au Québec. Mais c'est pareil aussi, tu vois, oui, il y a cette dimension d'invasion, de colonisation, de prise de territoire, etc. Mais les descendants des Premières Nations, des Inuits, etc., des Inuits, ils sont toujours là, en fait. Ces personnes sont toujours là. Elles sont minoritaires, malheureusement, mais elles sont toujours là, en fait. Donc, il y a encore une fois cet attachement à la terre qui est là. Mais nous, on n'a pas ça. Et c'est ça, je trouve, qui est le plus difficile, finalement, parce que... Encore une fois, nous, on nous parle souvent de notre africanité, du fait qu'on est descendants d'esclaves ont été importés du continent africain. Donc, on sait que nous sommes descendants d'Afrique, mais il y a aussi cette complexité du fait que on a été sur un territoire qui avait déjà été habité par d'autres peuples. Est-ce que il y a eu des mélanges entre Africains et peuples caribéens? Si oui, est-ce qu'on a encore aujourd'hui des personnes descendantes des peuples natifs caribéens, pardon? Surtout aussi, moi, j'ai beaucoup de questions, là, ça fait beaucoup de questions, mais est-ce qu'il y a eu vraiment un génocide complet de ces peuples-là, puis on n'en a plus du tout entendu parler? Est-ce qu'ils ont eux aussi été réduits en esclaves? Est-ce qu'ils ont tous préféré fuir à cause de ça? Parce que aussi, on l'a pas vraiment dit, mais... La dernière fois, tous les trois, on regardait un petit documentaire justement sur, je pense que c'était les Arawaks ou les Taïnos, je ne sais plus. Mais justement, et dans ce petit documentaire, on nous expliquait en fait que ces peuples-là bougeaient d'île en île en fait, et qu'ils ne s'appropriaient pas forcément une seule île. Ce n'était pas juste Karukéra pour la Guadeloupe et Joanoukéra pour la Martinique. C'était comme si la Caraïbe était un ensemble, et en fait, ces peuples-là naviguaient d'île en île. Donc, est-ce qu'à l'arrivée des colons, ils ont juste fui plus vers le sud ou plus vers le nord? On ne sait pas. Enfin, c'est vraiment toute une ribambelle de questions auxquelles on n'a juste pas de réponse, et qui sont finalement frustrantes, parce que en fait, c'est comme si nous, on est sur un territoire maintenant sur lequel nos ancêtres ont été déplacés, déportés depuis des siècles, mais avant ça, pendant, je pense, des siècles, voire peut-être des millénaires, on ne sait pas, il y avait des gens, quoi. Donc, maintenant, c'est la question de... OK, on vient d'Afrique, certes, mais qu'est-ce qu'on fait des peuples autochtones, en fait?
Alors, merci beaucoup, Adine, parce que tu as soulevé énormément de questions. Alors, j'ai quelques réponses à tes questions. Alors, dans un premier temps, je suis tombée, par exemple, sur un petit article de France Culture. On le mettra dans la bibliographie, pour ceux que ça intéresse, qui explique un peu qu'est-ce qui s'est passé pour les peuples autochtones, qu'on appelle en fait les Kalinagos. Et de ce que j'ai pu regarder, ce dont je me rappelle aussi, lorsque Christophe Colomb est arrivé ils ont été réduits en esclavage parce que, bien entendu, si les colons espagnols sont venus pour décimer leurs terres, etc., etc. Et une partie des Kalinagos a décidé de se réfugier à la Dominique, dans le nord-est de l'île. Alors, pour la petite histoire personnelle, moi, j'ai eu l'expérience, la chance, en fait, de me rendre en Dominique en 2014 et j'ai pu justement visiter le territoire donc des Kalinagos et vivre vraiment dans des conditions, je dirais... C'est difficile en fait, c'est-à-dire qu'ils ont très peu de moyens, bien entendu ils sont éloignés de la capitale donc qui est Roseau. Moi je me rappelle, on avait pris un bus, ça a duré le trajet environ 2 heures, donc ils sont vraiment très reculés, donc c'est des gens qui vivent avec très peu de moyens. Et par rapport à cela, c'est sûr que toutes les questions que tu as soulevées en fait viennent à, on va dire justement, appelé à décoloniser les esprits, décoloniser l'histoire de la Caraïbe. Et donc, justement, se pencher sur, oui, mais on sait déjà, effectivement, que nos ancêtres sont arrivés par le biais de la traite négrière, etc. Mais il y avait aussi d'autres populations qui étaient là avec nous. Qu'est-ce qui s'est passé avec ces gens-là? Et je trouve, effectivement, que ça soit en Guadeloupe ou en Martinique, il y a peu d'intérêt, en fait, sur l'histoire des Kalinagos, des peuples autochtones aux Antilles françaises. Je ne sais pas pour les Antilles anglophones qu'est-ce qui est fait, mais il est clair que ce manque d'intérêt, pour moi, en fait, attire mon attention. Alors, je ne sais pas si c'est parce que ils sont quasiment plus présents sur nos territoires, donc ce sont réfugiés à la Dominique, ils sont environ 3000 d'ailleurs, ou tout simplement, pour je ne sais quelle raison, on a décidé de complètement, rayer ces gens-là de l'histoire des Antilles françaises pour commencer justement par la colonisation, la traite négrière, etc.
Merci Michel pour tout ce que tu as apporté et Adeline, merci pour toutes tes questions. Il y en avait beaucoup, je vais faire un peu comme Michel, je vais essayer d'y répondre aussi parce qu'il y en a pour lesquelles j'ai quelques réponses. Ça se passe un peu pareil aussi pour la Martinique au niveau des peuples autochtones qui étaient là avant, mais avec l'arrivée de Christophe Colomb et puis des Européens, ils ont voulu fuir vers le nord de la Martinique et à la Dominique, l'île de la Dominique. Donc, on va retrouver des fois dans le nord de la Martinique, puisque c'était un peu plus accidenté aussi. Donc, c'est pour ça qu'ils se sont réfugiés là-bas. Et si on y va, des fois, on peut retrouver des anciens vestiges ou on peut retrouver, si je ne dis pas de bêtises, il y a des anciennes familles qui sont encore là. Elles sont peut-être pas dans les mêmes conditions qu'on connaît un peu à la Dominique, mais aussi en Guyane où elles sont très éloignées des villes et puis dans des conditions un peu sommaires et primaires. Mais voilà, c'est pas beaucoup comme élément d'histoire qui nous reste en Martinique, mais on sait du moins qu'ils ont migré un peu plus vers le nord de la Martinique et de la Caraïbe avec la Dominique. Donc ça, c'est une très bonne question aussi. Mais ça, ça vient avec des recherches qui sont personnelles. C'est pas quelque chose qu'on m'a enseigné à l'école. Et puis là, en plus, comme je dis, c'est assez récent aussi. C'est parce que je me suis un peu plus intéressé à l'histoire de l'île et puis j'ai visité des musées où tu peux retrouver ces informations-là. Mais sinon, c'est une histoire qui est souvent tue et qu'on a peut-être voulu oublier aussi et puis liée peut-être au génocide qui a été commis. Et puis dans tous les cas, comme dit Michel, il y a eu une colonisation de l'esprit mais qui a fait en sorte que le colon est un sauveur. Donc, c'est peut-être des histoires qu'on ne peut pas mentionner. Tu as demandé est-ce que il y a eu des mélanges, et vrai, je trouve que c'est une bonne question puisque justement on n'en sait rien, mais ce qu'on peut savoir et qu'on peut supposer, c'est que peut-être que oui, puisque récemment j'écoutais une émission et puis il parlait justement des peuples autochtones qui étaient déjà présents dans le nord des Amériques. Là il parlait plus des États-Unis et du Canada, et ils expliquaient que les esclaves qui étaient en fuite étaient aidés par les peuples autochtones. Donc, quand ils s'enfuyaient dans la nature, les peuples autochtones avaient ce savoir de la nature. Donc, ils les ont aidés, ils les ont guidés, ils les ont appris à vivre dans la nature. Et quand j'ai découvert ça, ben, je suis allé un peu plus me renseigner sur ça aussi et puis descendre un peu plus dans le sud et arriver à la Guyane. Et justement, on retrouve les mêmes récits de ben, les Marrons qui fuyaient, qui allaient dans la forêt, étaient épaulés par les peuples autochtones qui étaient là aussi, mais qui avaient fui aussi les colons dans la forêt. Donc, ils nous ont transmis aussi qu'est-ce qu'ils savaient de la forêt, qu'est-ce qu'ils savaient des terres. Et ça, c'est vraiment intéressant comme histoire. Je vais essayer de retrouver les références pour vous mettre aussi un peu dans la bibliographie qu'on va vous livrer par la suite. Mais ça, c'est vraiment des choses qui sont totalement pas racontées. Et puis, c'est pas raconté. J'ai dit ça comme ça. Et si je continue dans les questions que tu avais posées aussi, quand tu as parlé d'attachement à la terre, ça, c'est vraiment intéressant. Et puis, je trouve ça intéressant ben, qu'on puisse en discuter aussi, puisque le podcast parle de l'identité. Et justement, ben, on voit que l'attachement à une terre est quand même important dans la construction d'une identité. Et je ne sais pas si vous vous souvenez quand on avait parlé aussi dans le premier podcast, des fois, on avait l'impression ben, que notre identité ne nous appartenait pas, que c'était souvent les autres qui nous disaient « Ah, mais toi, t'es comme ci, toi, t'es ça. » Quand tu es en France, on te dit « Ah, mais t'es étranger. » Quand tu rentres aux Antilles, on te dit « Ah, mais t'es étranger parce que t'habites en France. » Et ben, on avait l'impression que notre identité n'était jamais saisissable. On ne pouvait jamais se la saisir nous-mêmes. C'est toujours les autres qui nous donnaient. Ben, peut-être qu'il y a un parallèle à faire aussi avec ces terres d'attachement qu'on n'a pas, puisque les terres sous lesquelles on est, elles ne nous appartiennent pas non plus. Elles n'ont pas été découvertes comme on nous a raconté par Christophe Colomb. Non, il y avait un peuple qui était déjà là. Et ça, on n'en parle pas. Et puis nous non plus, on n'est pas capable de s'en saisir. Et puis voilà, ça me fait penser à tout ça, ce que tu avais apporté dessus. Je m'arrête là. J'avais autre chose à dire sur décoloniser l'esprit, mais je vais vous laisser rebondir.
Ben, écoutez, je pense que vous deux, vous avez déjà apporté de très belles précisions et merci pour les références et merci pour les réponses à mes questions. Et je trouve que c'est très, très intéressant ce que tu viens de soulever, Jordi, du fait que finalement, ben, on a un peuple qui, en plus d'avoir été déporté, est sur une terre qui ne lui appartient pas. Donc finalement... c'est très paradoxal parce que c'est comme si on flottait dans l'air, c'est comme si on est plus africain parce qu'on a été déporté, mais en même temps ben là où on est ça nous appartient pas vraiment parce qu'il y avait des peuples qui étaient là avant. Donc c'est comme si tu sais quand on dit des choses comme Martinique libre, Guadeloupe libre, des choses comme ça, c'est comme ouais mais on veut être libre mais en même temps ben on n'est pas chez nous donc qu'est-ce qu'on fait. Mais après je pense que de toute façon ben l'histoire a fait que on a nulle part d'autre où aller parce que c'est pas en allant ça on en parlera évidemment au fil des épisodes, mais c'est pas en allant chez la mère patrie, la France, qu'on est accepté finalement parce que voilà, les choses font qu'on n'est même pas accepté là-bas non plus. Si on retourne sur le continent africain, encore une fois, on parle de l'Afrique, mais moi, je parle des pays d'Afrique, des territoires africains, parce que c'est une pluralité, en fait. On parle du continent africain comme si c'était juste un seul grand pays, l'Afrique, alors que non, c'est différents pays. À l'intérieur de ces pays, c'est différentes tribus, différentes ethnies. Donc, c'est bien beau de dire, bah oui, mais vous venez de l'Afrique, mais on vient d'où en Afrique aussi. Donc, il y a vraiment toutes ces questions, tous ces points d'interrogation, et je trouve finalement que une partie de la complexité de notre identité réside sur le fait qu'on ne sait pas exactement d'où on vient, et en plus on a ce paramètre de on habite des territoires qui à la base ne nous appartiennent pas. Donc c'est en tout cas, c'est très, très complexe. Mais je pense que, en tout cas, dans cet épisode-là, je suis contente qu'on ait abordé ce sujet-là parce que je trouve qu'on n'en parle jamais. On ne parle jamais de l'ère précolombienne, on ne parle jamais de l'ère précoloniale, on ne parle jamais des peuples des peuples caraïbes, enfin de ce qui se passait avant et aussi en fait de du savoir finalement de ces personnes-là. On les décrit tout à l'heure, on a parlé de cannibalisme, des gens qui s'entretuaient, des sauvages. On parle vraiment que de ça. Alors que c'était des civilisations en fait. On dit que c'est les Blancs qui ont apporté la civilisation, c'est les Européens, les colons. Non, c'était des peuples civilisés et je vois pas pourquoi des peuples qui étaient aux États-Unis ou des peuples. La dernière fois, j'ai regardé un superbe reportage sur la civilisation Maya qui était vraiment mais super avancée quoi. Enfin, elle était hyper organisée. Quand on voit les pyramides à travers l'Amérique centrale et l'Amérique du Sud, enfin c'était des peuples qui étaient super organisés. Donc je vois pas pourquoi les peuples qui étaient dans la Caraïbe, eux par contre c'était des sauvages, des cannibales. Ils savaient pas s'organiser, ils savaient pas être civilisés ou enfin. Peu importe comment on les dévalorise, pardon. Donc, je pense que c'est très, très important de prendre ça en compte aussi quand on parle des Antilles, parce qu'on a tendance vraiment à l'oublier. On a tendance, le peuple entier, les peuples entiers, comment ils se sont construits aujourd'hui, c'est complètement différent d'un point de vue culturel finalement. Mais encore là, on dit que c'est complètement différent, mais est-ce que c'est complètement différent? Est-ce qu'il y a des choses dont on ne s'est pas inspiré, dont les esclaves africains et les peu de des habitants de ces territoires-là, finalement, est-ce qu'il n'y a pas des savoirs qui se sont transmis, des choses entre eux qui se sont passées? Donc, est-ce qu'on peut dire qu'on est complètement que notre culture est complètement opposée? Je ne sais pas. C'est sûr que aujourd'hui, en 2022. Sachant que les Antilles appartiennent à la France, on est plus occidentalisé qu'autre chose. Mais est-ce qu'il n'y a pas des choses qui sont restées? Moi, je ne mettrais pas ma main à couper à dire qu'on est complètement opposé à ces peuples-là, parce que je ne le pense pas. Je pense qu'il y a quand même des choses qui se sont transmises. Mais c'est sûr que l'histoire a fait que, de toute façon, les choses se sont complexifiées. Et malheureusement, on n'a pas d'historique, de traces, de choses concrètes par rapport à ça, à cause de la colonisation, l'esclavage, tout ça, tout ça. Donc, de toute façon, évidemment, on en parlera plus parce que je pense que l'ère coloniale, c'est l'ère sur laquelle on a le plus d'informations. Donc, évidemment, le prochain épisode va traiter de ça, de la période esclavagiste et coloniale, mais on va essayer de traiter le sujet d'une façon différente que ce qui est fait habituellement, de juste relater des faits, de juste aussi parler de l'esclavage, parce que on trouvait, Jordi avait soulevé le point que on parle beaucoup d'esclavage, mais on ne parle pas beaucoup de colonisation. Donc, le prochain épisode portera sur ça.
Est-ce que quelqu'un veut rajouter quelque chose?
Moi, je voulais revenir sur... quand on a parlé, encore aussi parler de l'attachement à la terre, un peu comme Michel. Je voudrais pas non plus que ça soit perçu comme quelque chose de pessimiste. Et puis on a aucune terre qui nous appartient. Je pense encore qu'il y a un travail qui est possible de pouvoir se réapproprier ces terres et justement de faire ce retour, de décoloniser l'histoire qu'on nous a appris, d'aller chercher plus loin, sous l'époque précolombienne, comment ça se passait, c'était quoi les croyances qu'il y avait avant, comment la terre était utilisée. Tu l'as dit, Adeline. La Caraïbe était considérée comme un seul territoire pour les Kalinagos ou les Taïnos. Ça, c'est des choses peut-être qui sont à réapprendre aussi, qui peuvent nous donner des idées aussi pour l'avenir, comment on s'organise dans la Caraïbe. Et j'inviterai les personnes qui nous écoutent aussi, si elles veulent faire ce travail de décolonisation de l'histoire, de se référer à une plateforme numérique qui sont présentes sur à peu près tous les réseaux sociaux, que ce soit Instagram, Twitter, et sur leur site internet. Après, ils ont aussi des podcasts, des vidéos, tout ça. C'est vraiment complet. C'est Oliron la Caraïbe. Ça a été fait, c'est fait par des chercheurs et des professeurs martiniquais. Donc, ils relatent l'histoire de la Caraïbe et puis ils passent à travers vraiment toute l'histoire pré-colombienne, la période d'esclavagisme et colonisation. Donc, j'invite vraiment les personnes allaient voir ce site-là parce qu'il est vraiment bien fait et puis leurs capsules vidéo sont vraiment intéressantes. Donc, voilà pour moi, c'est ce que je dirais pour le mot de la fin. Ah non, la phrase de la fin, c'est que j'avais écouté une émission où il y avait une écrivaine d'origine africaine subsaharienne et elle disait que la colonisation, ou même moi je vais revenir jusqu'à l'époque précolombienne, c'est la disparition du monde connu. Et puis par rapport à tout ce qu'on vient de dire, maintenant je comprends toute la portée de cette phrase-là. Ben, effectivement, il y a un monde qu'on ne connaît plus et ben, maintenant il faudrait aller le chercher.
Vous venez d'écouter Identitèse, un concept pensé, recherché et réalisé par Michel Martineau, Jordi Bellens et Adeline Louison. Au montage, Adeline Louison. Et musique, libre de droit, par Olive Musique.